services gouvernementaux qui pourraient vous aider. Soumettez votre demande. Consultez sans tarder le www.msg.gouv.qc.ca ou composez le 1-877-644-4545.
Ne vous laissez pas intimider par les musiques expérimentales. Délirantes, dérangeantes, elles savent aussi divertir, questionner et stimuler. Chaque semaine, François Couture vous propose nouveautés, portraits et thématiques couvrant tout le vaste spectre des musiques d'avant-garde. Ne manquez pas Délire actuel, le mardi à 20h.
Voici la météo sur l'Environnement Canada en ce mardi 30 juin. Pour ce soir et cette nuit, ce sera des passages nuageux. On prévoit 30 % de probabilité d'averse durant la soirée. Il y aura également des nappes de brouillard qui se formeront au cours de la nuit. On prévoit un minimum à 15 degrés. Et pour demain, mercredi, ce sera nuageux avec des percées de soleil. Il y aura 60 % de probabilité d'averse en après-midi et en soirée. Les nappes de brouillard se dissiperont tôt le matin. Un maximum est prévu à 22 degrés. La météo à CFLX vous est présentée à toutes les heures. CFLX 95,5. La radio communautaire de l'Estrie.
Cette nouvelle émission de La Rage du Peuple, émission d'actualité sociopolitique avec une très forte tendance libertaire. On va commencer l'émission d'aujourd'hui avec faisant un bref retour sur les actualités, surtout une nouvelle qui m'a particulièrement intéressé. Et par la suite, on a Carlos qui est encore avec nous, qui va pouvoir présenter avec notre invité d'aujourd'hui, Serge Granger, si on veut une présentation du système international de prohibition et ainsi que tous les mécanismes qui a donné naissance et qui va peut-être y mettre fin à ce système. Mais tout d'abord, on va faire un tour dans les nouvelles, une qui est parue dans la presse, qui nous apprend que la Grande-Bretagne aurait envisagé de lancer une attaque chimique sur Tokyo presque un an avant le bombardement nucléaire américain sur Hiroshima et Nagasaki, ce qui a mis un terme à la Seconde Guerre mondiale, selon les documents qui auraient été découverts dans les archives britanniques et qui avaient été déclassifiés ce vendredi. Le projet était resté caché du public pendant plus de 65 ans et prévoyait l'usage de gaz chimique contre les civils japonais en 1944. S'il est resté à l'état d'ébauche, un mémorandum détaillé décrivait les mesures adoptées pour que l'attaque soit la plus meurtrière possible. Dans ce document, le professeur Brunt esquisse la méthodologie d'une telle opération. Il suggère que le bombardement initial soit dirigé vers les zones urbaines les plus densément peuplées, ainsi que celles en construction en utilisant des engins incendiaires qui auraient été suffisants pour mettre le feu à ces larges zones, pardonnez-moi. Donc, je vais m'arrêter ici, mais c'est intéressant de voir que souvent, lorsqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, on va décrire, certaines atrocités, et à juste titre, qui auraient été commises, entre autres, par les régimes totalitaires japonais et ou allemands. Néanmoins, il faut s'étonner de constater que c'est également dans nos chères démocraties que des méthodes de calcul froid et, efficaces de meurtre à grande échelle auraient été élaborées également. Mais bon, on va continuer. dans le vif du sujet d'aujourd'hui, puisque ça risque d'être très intéressant. Bonjour Carlos, bonjour Serge.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien?
Oui.
Oui, tout à fait. En fait, je suis bien heureux d'être accueillir Serge aujourd'hui pour discuter de ce sujet-là. En fait, ça a été le sujet d'un des cours que Serge a donné la dernière session à l'université. Et puis, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement du fait de sa pertinence dans l'actualité mondiale, mais surtout de son côté un petit peu plus interlope. Fait que c'est souvent des sujets de ce genre-là qu'on a à traiter dans le cours sur la criminalité internationale. Alors, pour introduire notre invité, tout d'abord, M. Serge Granger, professeur à l'Université de Sherbrooke en sciences politiques, spécialiste de l'Asie et surtout de la Chine. Qui va d'ailleurs, paraît-il, qui nous apprend aujourd'hui, sortir un livre au cours de l'année qui s'intitule « Bilan d'une utopie, un siècle de prohibition au Québec et dans le monde. Bilan
d'une utopie.
Bilan d'une utopie, mais surtout d'une utopie, dans le fond, étant donné que c'est un échec. »
Ben, on pourrait dire qu'après un siècle de prohibition, on ne peut pas dire que ça l'a très bien réussi jusqu'à maintenant. Alors, je ne crois pas d'ailleurs que ça va réussir. C'est pourquoi le titre soutient que c'est une utopie. Et normalement, on réussit très difficilement les utopies.
Tout à fait. En fait, avant de voir vers quelle utopie on s'est rendu, on pourrait peut-être se demander qui est derrière cette utopie-là? Qui rêve de ce drug-free world, un monde sans drogue, sans vice, sans sexe, drogue et bon. Rock'n'roll?
Bon, ben, on pourrait dire qu'à l'époque, c'était sexe, drugs et jazz.
Ouais,
d'ailleurs, le Festival de jazz là est pour le prouver. C'est clair que si on regarde là, un siècle, la prohibition, il y avait des raisons socio-économiques. Hein? Il ne faut pas se le cacher. Il y a des lobbies très puissants. Puis aussi, il y avait un lobby moral qui était, dans le fond, principalement issu du mouvement de tempérance, qui est issu du mouvement puritain, protestant, qui voyait, dans le fond, l'éthique humaine qui était la façon la plus proche pour se rendre à Dieu. Il fallait le faire à jeun. Donc, c'est clair que pour eux, l'alcool, les drogues et même, bien sûr, aussi le jeu constituaient des vices et qu'il fallait absolument faire disparaître de la planète pour justement atteindre un état de pureté et de créer une société idéale.
Puis en même temps, vous avez dit qu'il y avait d'autres intérêts plus
socio-économiques, parce que l'Angleterre, au 19e siècle, elle était le premier marchand d'opium, suivi des Américains, il ne faut pas oublier. L'Empire britannique vendait l'opium comme on vend un peu n'importe quoi aujourd'hui. Ils étaient, dans le fond, il y avait le monopole pratiquement de la vente de l'opium vers la Chine. Alors, ils ont nationalisé l'opium en Inde en 1793, pour ça qu'ils ont colonisé la place, d'ailleurs. C'était une façon d'obtenir de l'opium pour le vendre aux Chinois en échange du thé. Alors, dans le fond, un siècle de vente d'opium envers aux Chinois par les Britanniques a fait en sorte que l'Empire britannique s'est enrichi énormément. Et suite à la Deuxième Guerre, je ne vais pas rentrer dans les détails de date, mais du moins la Deuxième Guerre d'opium, la vente d'opium a été légalisée en Chine. Alors, les Chinois ont commencé à en produire eux-mêmes. Et en 1860, la Chine en produisait très peu. En 1885, elle en produisait autant que l'Angleterre. Et en 1907, elle en produisait 85% de la production mondiale, mais aussi elle en consommait 85% de la production mondiale. Alors, dans le fond, la Chine est devenue autosuffisante d'opium pratiquement au début du 20e siècle. Et c'est là l'intérêt économique, justement, de vendre de l'opium à la Chine diminué énormément de la part des marchands britanniques, combiné avec une pression des missionnaires puritains et des mouvements des féministes aussi, il ne faut pas oublier aussi que les femmes ne voulaient absolument pas voir leurs hommes boire de l'alcool, gager leur paye ou consommer des drogues. Alors, tout ça combiné ensemble fait en sorte que l'alignement des astres était propice pour voir une première réunion à Shanghai en 1909 qui a débuté, dans le fond, le mouvement prohibitionniste à l'échelle planétaire. Alors, 1909, aujourd'hui, nous sommes en 2009, ça fait exactement un siècle que ce mouvement prohibitionniste a commencé à l'échelle planétaire.
Puis, vous avez dit justement que la Chine avait décidé de changer sa politique vis-à-vis de la criminalisation. Qu'est-ce qui l'aurait motivé à interdire la vente, à en produire elle-même?
Bien, initialement, écoutez, elle a mis une prohibition qui n'a pas vraiment fonctionné. Je veux dire, ça continue à se produire en Chine. Mais lorsqu'il y a eu la légalisation, c'est l'Angleterre qui a imposé la légalisation de l'opium à la Chine en 1860. Alors, les Chinois ont commencé à en produire. Là, il y a plusieurs facteurs qui combinent, dans le fond, le déclin de la Chine. Là, il y a des facteurs économiques, des facteurs sociaux qui seraient peut-être longs à établir ici.
Peut-être bon pour une autre émission.
Bon pour une autre émission, mais c'est clair que le gouvernement est en train de se désintégrer. Et une façon aussi pour obtenir, bien sûr, de survivre, beaucoup de Chinois se sont mis à produire de l'opium. Et ensuite, l'État, qui avait très peu de revenus de cette culture, a accentué, dans le fond, son déclin économique. Ce qui fait en sorte que la dynastie a disparu en 1911. Et là, il y a eu un mouvement d'anarchie pendant plusieurs années. Pendant une vingtaine d'années, la Chine n'a pas eu de gouvernement central proprement dit. Ce qui fait que dans toutes les régions, ils se sont mis à cultiver de l'opium parce que c'est un cash crop, il ne faut pas oublier. C'est une culture où on fait beaucoup d'argent, comme aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. Alors, quand le pouvoir étatique est très faible, il ne pouvait pas imposer une prohibition quelconque. Et ce qui fait en sorte que les Chinois ont eu recours à l'opium pour soit le consommer eux-mêmes ou en utiliser, faire de l'argent. Puis ensuite, c'était les militaristes provinciaux qui utilisaient la vente d'opium pour garnir leur corps.
Ça ressemble exactement à l'Afghanistan. C'est le même scénario, quoi.
C'est le scénario qui se répète, à vrai dire, depuis un siècle. Il ne faut pas se le cacher. Même avant ça, si on regarde ça, mais depuis, l'Afghanistan, c'est un exemple typique. Alors, on pourrait dire que... Autant on pourrait dire que les talibans se financent. Là, un an, on a parlé que les talibans avaient 100 millions de dollars par année en cueillette de vente d'opium. Le chiffre est peut-être vrai, mais j'aimerais rappeler aux éditeurs que c'est environ 1/400 de la recette totale mondiale de la vente d'opium. Alors, le 100 millions, c'est quand même pas grand-chose par rapport aux milliards de dollars qui ont été blanchis dans les banques et dans les casinos ou dans les... Alors, dans le fond, il faut tempérer un peu d'aligner la vente de l'opium à des groupes terroristes. Il ne faut pas oublier que dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70-80, les Américains, par le biais de groupes qu'on appelle Freedom Fighters ou des alliés ou des batailleurs de la liberté, faisaient la même chose avec la complicité de la CIA. Alors, que ce soit en Haute-Birmanie, au Laos, il ne faut pas oublier que la CIA était partie prenante dans le commerce de l'héroïne à cette époque-là. Et d'ailleurs, ça créait le triangle d'or. Et quand la CIA aussi s'est mise à aider les Moudjahidines afghans contre les Russes soviétiques en 1979 jusqu'en 1989, c'est une décade, la multiplication de la culture de l'opium dans la vallée de Peshawar, dans le Cachemire, et ensuite, on a gravité la production du côté afghan. Et il ne faut pas oublier que c'était encore la CIA qui encourageait la culture de l'opium pour financer ces groupes Moudjahidines qui combattaient les Russes. Alors, dans les deux cas, le triangle d'or ou croissant d'or, on ne peut pas faire abstraction du jeu de la CIA dans l'utilisation des drogues à des fins partisanes. Alors, c'est encore comme ça aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher.
Oui, puis pas seulement dans cette région du monde-là. Je disais un peu plus tôt que la CIA avait collaboré avec la French Connection, qui était un réseau de trafiquants de drogue français qui exportait vers les États-Unis de l'héroïne uniquement pour combattre le syndicalisme à Marseille.
Ah oui, c'est... Écoutez, il y a toujours eu un lien incestueux entre la criminalité... ça peut être autant des mouvements syndicaux ou anti-syndicaux. Ça dépend avec quelle filière vous faites affaire et quel job de bras vous avez besoin. Alors, ça, il ne faut pas se surprendre. Et d'ailleurs, le French Connection, il ne faut pas oublier que l'héroïne qu'on produisait au Laos, principalement, devait être acheminée vers des marchés consommateurs. Alors, le port de Marseille, justement, le French Connection fait justement référence au fait que l'héroïne quittait le Triangle d'Or, passait à Marseille, une partie pouvait se vendre en Europe et une autre partie continuait vers les Amériques. Alors, on pouvait arriver autant de l'Atlantique que du Pacifique, mais c'était une route assez usuelle.
OK. Fait avant d'acheminer vers cette descente aux enfers, il faut d'abord monter en quelque part. J'aimerais ça que, monsieur... dans le fond, que vous me parliez de qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé dans les années 20 à avoir un régime international de prohibition.
Oui, bien, c'est que le mouvement de la tempérance avait beaucoup d'influence aux États-Unis parce qu'il ne faut pas oublier que le mouvement puritain, qui est réformiste dans le fond, perçoit le gros capitaliste, vous savez, le gros capitaliste qui marche sur la spéculation, etc., comme étant jusqu'à un certain point un vice. Mm-hmm. Et c'est pourquoi l'éthique protestante est devenue très forte qui, dans le fond, a fait en sorte qu'on ne voulait pas socialement permettre des gens qui pouvaient dériver de ce puritanisme ou ce comportement éthique. Alors, on a simultanément fait la prohibition de l'alcool, il ne faut pas oublier, en 1920, la prohibition du jeu en 1919, ça a été décriminalisé seulement en 1969, le jeu au Canada, il ne faut pas oublier, et aussi la prohibition des drogues. Alors, la première convention internationale a été mise en place en 1912 à La Haye. Il y avait seulement 13 pays participants. C'était surtout des pays qui visaient à contrer, dans le fond, l'exportation d'opium chinois vers leurs terres. Alors, initialement, on a dit qu'on voulait mettre un fin à la consommation récréative de l'opium, tout en permettant, en 1912, de l'utilisation médicale de l'opium. Et là, on a commencé vraiment après de rajouter d'autres conventions, entre autres, qui criminalisaient le docteur qui pouvait prescrire de l'opium pour des façons récréatives ou sans validité médicale. Alors, de plus en plus, à partir de 1914, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, l'opium à des fins médicales est restreint dans un monde très surveillé, c'est-à-dire la recherche médicale, etc. Et tout l'autre composante, c'est-à-dire l'utilisation récréative, va être fortement criminalisé à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un désir de la part des États-Unis de se débarrasser d'une pratique qui est jugée jusqu'à un certain point étrangère au culte puritain. C'est-à-dire, et quand on parle de forcer les gens à respecter un culte puritain, souvent on attaquait entre autres les minorités qui n'étaient pas puritaines, qui n'étaient pas protestantes. En l'occurrence, les Chinois au Canada ont souvent été associés à la consommation d'opium, qui est en partie vrai, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de Britanniques, et surtout comme au Québec, c'était des jeunes femmes entre 20 et 44 ans qui étaient les plus grandes utilisatrices de morphinomanes. Et ce qui est assez curieux, c'était les morphinomanes. Et on a inventé l'héroïne pour combattre les gens qui utilisaient la morphine. Alors, parce que c'est Bayer's Canada qui a le copyright de la morphine, de l'héroïne.
Et qui le prescrivait également aux jeunes enfants qui souffraient de douleurs dentaires.
Oui, bien, c'était à l'époque qu'on croyait que l'opium avait, comme aujourd'hui d'ailleurs, le ritalin, c'est la même chose, c'est un opiacé synthétique. Alors, l'idée, c'était que l'opium était un excellent médicament à cette époque. Il y a encore des gens qui croient, et ça l'est toujours, l'opium est une base, à faire une tonne de médicaments. Mais à l'époque, on voulait réserver justement l'opium à des fins de recherche scientifique, mais on a même allé jusqu'à criminaliser des docteurs qui pouvaient prescrire l'opium à des patients qui, bien sûr, en demandaient pour des raisons X, Y, Z. Et le rétrécissement des raisons pour légiférer ou bien pour prescrire l'opium a fait en sorte que même le corps médical s'est retiré de la prescription de l'opium de peur d'être criminalisé, ce qui fait que, dans le fond, la recherche scientifique a quand même beaucoup souffert sur ce qu'on peut faire avec l'opium. Alors, à partir de la prohibition des années 20, c'est un désastre pour la science jusqu'à un certain point.
Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui s'est passé justement pour, en quelque sorte, tempérer ces lois-là? Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement, mettons, des compagnies pharmaceutiques qui auraient voulu, en quelque sorte, mettre un autre agenda là-dedans pour qu'ils puissent continuer de développer des nouvelles drogues, etc.?
Oui, il y a eu des compagnies pharmaceutiques qui, eux, voulaient s'assurer justement que la production demeure. Comme en France, c'est arrivé. La France a continué à produire de l'opium et pouvait justement approvisionner des compagnies françaises, bien sûr, pour faire de la recherche. C'est encore comme ça aujourd'hui, d'ailleurs. La France en produit, l'Inde en produit, la Turquie en produit encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays, même en Chine, j'ai appris récemment que la Chine produit de l'opium à des fins scientifiques. Alors, faut pas se surprendre, là, je veux dire. Alors, pourquoi on empêchait l'Afghanistan de le faire? Ça, c'est encore drôle, là, je veux dire, aujourd'hui, vous savez, avec cette question-là. Mais il y a beaucoup de pays qui ont continué d'en produire, mais c'était à des fins vraiment scientifiques et le nombre de la production est très minime parce qu'ils tentent de contrôler cette production. Le problème qu'on voit dans les années 20, c'est que les gens qui ne veulent pas, comme les médecins ou les pharmaciens, je vous donne un exemple, quand il y a eu la prohibition, entre autres, de la marijuana en 1923 au Canada, il n'y a pas eu l'opinion des pharmaciens ni des médecins sur la prohibition de cette drogue. Ils n'ont pas opposé le lobby, je vous dirais, moralisateur de l'époque, parce que, c'était très fort, le mouvement de la prohibition à cette époque. Hein? Il y avait la combinée prohibition du jus, de l'alcool et des drogues, vous comprenez? Alors, beaucoup de médecins n'ont pas opposé, ont trouvé ça dommage. Il y a certains pharmaciens et médecins qui se sont opposés à cela, mais quand il y a eu proprement dit, ils n'ont pas déposé beaucoup de mémoire ou ils n'ont pas fait de signes qui démontrent au gouvernement que c'était une mauvaise législation.
Je crois qu'également au Canada, entre autres, l'interdiction de consommation d'opium a servi à ostraciser, si on veut, l'étranger chinois.
Surtout eux, parce que c'est ce qui est une fausseté, parce que l'opium au Canada est introduit par les Britanniques. Hein. Il faut être clair là-dessus, là, je veux dire, j'ai des preuves formelles. Là, je veux dire, c'était même la société sous l'avancement de la science et de la culture et du commerce qui ont tenté de faire pousser de l'opium ici au Canada en 1777, si vous voulez avoir la date précise. Et dans 1830, l'année où on a découvert la morphine, hein, vous savez, il ne faut pas se cacher, de 1830 jusqu'à 1895, tout le corps médical du Canada fait des expériences à la morphine. Il y a plusieurs médecins qui sont morts d'overdose de morphine, plusieurs médecins qui étaient drogués à la morphine, les infirmières, etc. Alors, on consommait de l'opium ici sous forme de morphine qu'on pouvait acheter sur, dans des sirops, dans n'importe quoi. Là, produit librement et vendu librement. Et il y avait une consommation d'opium ici sous forme de morphine. Alors, lorsqu'on a voulu mettre un terme à cette utilisation de la morphine, on lui a donné un goût, dans le fond, d'altérité. C'était les étrangers qui se droguaient, puis l'opium, les Chinois, étaient une cible parfaite, compte tenu qu'ils sont relativement étrangers selon le corps, disons, si on prend une comparaison avec un orangiste et un Chinois. Alors, c'est clair que l'altérité, hein, l'étrangeté, c'est-à-dire ce sont, pour démontrer que la consommation de drogue est quelque chose de très mal, il fallait rajouter un élément, dans le fond, étranger à cette consommation de drogue, ce qui fait que, dans le fond, les étrangers étaient des consommateurs de drogue. Et je pourrais même vous dire que je fais un parallèle un peu avec aujourd'hui, parce que le nombre d'Amérindiens enfermés dans les prisons à Saskatchewan, au Manitoba, ne respecte pas, dans le fond, un ratio qui pourrait être plus proche de la réalité. Il y a un homme noir sur 9 aux États-Unis, âgé entre 20 et 34 ans, qui est en prison en ce moment. Alors, et 80% de ces accusations sont liées à des questions de stupéfiants. Alors, on peut se poser la question si, en voulant démontrer l'altérité, c'est-à-dire l'étrangeté, la consommation, quoi, c'est les étrangers qui font ça, si ça n'a pas un réflexe, que ça n'a pas un profilage racial qui se perdure encore aujourd'hui.
Mm-hmm. Puis surtout chez les couches les moins aisées de la population.
Bon, c'est plus facile d'arrêter des petits consommateurs que des grands producteurs et des grands parce qu'ils sont plus proches du pouvoir. Mais c'est clair que pour nettoyer la place publique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la production de la drogue, il y a le transit de la drogue. Ça, c'est les merveilleuses mafias bien organisées internationales qui font cela. Et la distribution. Mais le dernier distributeur, celui que vous voyez dans la rue qui vend par gramme, c'est souvent justement des gens d'origine marginalisée, des gens d'origine étrangère qui ont un taux de chômage plus élevé, etc. Bref, qui ont un taux... Vous savez, c'est une façon facile de se faire de l'argent, il ne faut pas se le cacher. Mm-hmm. Et sur l'espace public, ce n'est pas surprenant de voir davantage de gens, que ce soit des gangs de rue ou que ce soit dans d'autres segments de la société, mais c'est clair que le profilage racial... C'est un automatisme qui se fait devant une réalité qui a été construite. Faut pas oublier, c'est pas naturel ce qu'on voit là. C'est une construction des lois prohibitives qui donne ce résultat.
En fait, en faisant les lectures dans la recherche pour cette émission, je me suis rendu compte que la mafia italienne, justement, avait fait le choix à un moment donné, quand les drogues se sont mis à venir aux États-Unis puis en Europe, de justement pas toucher la partie qui était plus sensible du trafic, c'est-à-dire d'être faire la vente sur la rue. Il s'était surtout limité à la logistique puis au financement.
Oui, il y a des gens qui se spécialisent dans la production, il y a des gens qui se spécialisent dans le transit, parce que souvent, il faut les faire... ça part de loin, hein, si on parle de l'opium ou on parle de la cocaïne, ça vient pas d'ici. Et il y a des gens qui se spécialisent dans la distribution. Alors, c'est clair qu'il y a des ententes entre ces différents trois groupes, les producteurs, les pourvoyeurs, si vous préférez, et les vendeurs. Et souvent, il y a chacun sa chasse gardée pour des raisons, bien sûr, de facilité, d'avoir du marché et bien sûr d'avoir des appuis plus proches des consommateurs. Et bien sûr, se séparer un marché très lucratif. Alors, souvent, quand on parle des gangs de rue ou des guerres de moteurs, etc., c'est on va se battre pour une région, une zone géographique quelconque de la distribution. Et souvent, c'est les petits vendeurs vont être soit des gens d'origine, hein, ça peut être une façon, comme la gang de l'Ouest à Montréal à l'époque, la mafia italienne faisait affaire avec les Frères Dubois ou la gang de l'Ouest, les Irlandais de Montréal, parce que ces gens connaissent bien le quartier. Alors, c'est une entente qui se fait en deux groupes criminalisés, un qui achemine la drogue et l'autre qui la distribue.
C'est comme une division entre... Je pense qu'il y a une appellation qui stipule là, le « crime on the streets » and the crime in the suites », c'est-à-dire de faire, admettons, avoir un groupe de riches financiers dans un hôtel à New York. C'est pas la même chose, admettons, que des Noirs sur le coin d'une rue en bas de cet hôtel-là.
En effet, c'est plus facile d'arrêter les gens dans l'espace public parce que c'est là qu'on va trouver les preuves accablantes, tandis que c'est plus difficile de remonter la filière. Puis autre chose aussi qu'il faut oublier, c'est que dans le fond, même dans le monde des drogues, il y a aussi, dans le fond, un taylorisme qui s'est installé. C'est-à-dire qu'il y a une division du travail, oui, une rationalisation du travail pour augmenter son efficacité. Alors, depuis 6 mois, vous savez, depuis 2008, début 2009, le gouvernement du Québec, la SQ, etc., ont fait beaucoup de descentes.
Surtout à Sherbrooke.
À Sherbrooke, oui. Il ne faut pas se surprendre. Hein. Sherbrooke aussi, écoutez, c'est une région frontalière. Alors, c'est clair que, je veux dire, on peut l'exporter vers les États-Unis. Hein. Bon, est-ce que c'est un phénomène important? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais c'est clair que ce que vous voyez là, dans le fond, c'est une réalité d'un commerce qui est très lucratif et c'est très difficile pour la police de l'empêcher de se produire. Et même si on fait toutes les descentes, même les spécialistes, là, comme le sous-ministre de la justice au Québec, mentionnait que probablement le marché allait être perturbé pendant 48 heures. Ouais. Alors, c'est quand même pas un succès extraordinaire.
Ben d'ailleurs, le journal de Sherbrooke avait publié récemment, une fin de semaine, que les Hells de l'Ontario étaient déjà supposément en train de reprendre.
Il faut être réaliste aussi. Je pense qu'il y a trois raisons qui peuvent décourager les gens qui luttent contre la consommation de drogue. Tout d'abord, il faut comprendre que les criminels, tant qu'on leur offre des zones pour faire de la criminalité, ils vont en avoir. Il ne faut pas se le cacher. Là. Je veux dire, c'est le même depuis des milliers d'années. Mm-hmm. Alors, il ne faut pas se surprendre. D'autre part, les drogues, que ce soit le cannabis ou l'opium ou la cocaïne, c'est une plante. Ça repousse. Alors, le problème ne va pas disparaître du jour au lendemain. On ne va pas fumiger les forêts québécoises où c'est un peu ridicule tout ça.
Par contre, on le fait en Amérique du Sud.
Oui, puis c'est un désastre comme plan. Le plan Colombie, vous faites référence. Alors, d'ailleurs, beaucoup de Colombiens qui s'opposent à ça et beaucoup de parlementaires colombiens qui s'opposent à ça parce que le plus ridicule, c'est qu'on tente de relocaliser 3 millions de réfugiés sur des terres qui ont été fumiguées, donc qui sont impropres à la culture. Alors, c'est une vraie farce. Mais ce que le plus inquiétant dans tout ça, c'est de voir aussi une autre troisième raison pour s'attendre. L'humanité n'a jamais connu un monde sans consommation de drogue. Alors, je trouve que ça fait référence à l'utopie, justement. C'est se combattre un peu comme contre la foi jusqu'à un certain point.
Mais à un certain point, vous ne seriez pas d'avis de dire, justement, que ceux qui fournissent, comme l'argument populaire, justement, de dire « c'est pas possible qu'on ait des gens qui vendent des produits aussi toxiques comme l'héroïne, la cocaïne, toutes sortes de drogues dures qu'on entend », je pense que la plupart des gens dans la société, ils s'opposeraient à ces types d'actes-là. Pourquoi, autrement que la violence, par exemple, qui pourrait être perpétrée, par exemple, dans des régions au sud où est-ce que la guerre à la drogue est effectuée, dans le nord, pourquoi ça serait pas une bonne idée d'arrêter des motards qui vendent soit de l'héroïne ou des drogues dures à des jeunes ou à des adultes, indépendamment de leur indépendance ou leur choix. Là.
Oui, c'est ce qu'ils ont fait tout récemment, mais c'est qu'on sait qu'ils vont être remplacés. C'est un peu
c'est
ça.
C'est un marché, puis le marché a besoin d'être exploité.
Oui, mais je pense que c'est important de se donner une bonne conscience en tout ça, de démontrer qu'on fait des arrestations, on fait quelque chose. Moi, je trouve qu'à force de donner des coups d'épée dans l'eau, je ne sais pas ce que ça va donner. Non, mais je veux dire, c'est clair que je pense qu'il y a une idée de se donner une bonne conscience dans tout ça. C'est une utopie, comme je le dis. C'est qu'on tente de créer un monde sans drogue. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'on tente de faire... On évite un véritable contrôle des drogues en favorisant la prohibition. Parce que c'est le crime organisé qui contrôle la composante des drogues dont vous parlez en termes de pureté de drogue. Alors, comment arriver à mettre un système qui pourrait permettre, entre autres, de savoir exactement la qualité des drogues qu'on retrouve, qu'on achète? Autant les drogues légales, il y en a un système dispositif pour le faire. Alors, tant que les drogues sont illégales, on s'empêche de faire véritablement un contrôle de qualité sur les différentes drogues.
Mais bon, c'est une utopie de se le dire, surtout quand on sait que les premières références qu'on a sur l'usage de drogues remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ chez les Sumériens. Mais bon, on va faire une pause publicitaire et musicale, puis on revient tout de suite après.
Mixion, si ce n'est que dire que c'est un savant mélange de sonorités multiples. Éclectique, mais toujours pertinente, la mixion marie le jazz avec le hip-hop, le blues avec le soul, le dub avec l'électronique, avec une touche de musique du monde. Une heure de musique sans arrêt, sélectionnée et mixée par Éric Garand. La mixion diffusée tous les samedis soirs de 19h à 20h sur les ondes de CFLX FM 95.5, en alternance avec MPO FM, diffusée seulement les premiers samedis de chaque mois.
Si vous avez des commentaires ou suggestions concernant notre programmation, contactez-nous par téléphone 819-566-2787 ou par courriel à l'adresse commentaires@cflx.qc.ca.
Ça t'arrive parfois de sentir comme un grand vide à l'intérieur? Est-ce que tu préfères 20-30 années plus épanouissant? CFLX te propose une expérience des plus enrichissantes en joignant son équipe de bénévoles dynamiques haute en couleur. Tu as un esprit créatif, tu aimes le travail en équipe ou tu voudrais simplement nous faire valoir tes compétences, donne-nous un peu de ton temps. Renseignements disponibles à la station au 67 rue Wellington Nord ou au 566-2787. Implique-toi à cette radio.
CFLX 95,5 FM. La radio communautaire de l'esprit.
Donc, on est de retour en onde. On est toujours avec Serge Granger et Carlos. Et on parle, bien sûr, de la prohibition des drogues et de ce mécanisme international. Où en étions-nous?
Nous en étions justement à parler de cash. Parce oui. que s'il y a quelque chose qui fait beaucoup d'argent, c'est bien la drogue. Je crois que c'est dans les trois denrées principales mondiales. Il y a l'armement, Il y a le pétrole, puis la drogue, dans le fond, je pense, dans le fond, c'est, la drogue, c'est le deuxième.
Fait. Oui, j'ai entendu dire que c'est la deuxième industrie la plus importante au monde. Puis, mais vous savez, c'est très difficile à estimer, hein, parce que c'est les chiffres varient. Mais ce qui revient plus souvent, là, c'est entre, c'est pas environ un trillion et demi de dollars par année qui seraient blanchis, qui disparaissent dans des banques offshore ou dans des casinos, peut-être celui de Montréal.
Quoi, sauver bien des industries automobiles?
Ou, ben écoutez, hein, on peut blancher de toutes sortes de façons. Là, on peut ouvrir un bar sur la rue à Wellington aussi pour faire ça. Là, mais,
on peut faire des contributions à des partis politiques avant.
Exactement, hein? Aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même 1,4 trillion de dollars. Ça, c'est des chiffres qui sont avancés par la Banque mondiale. Peut-être si on peut donner un crédit à cette source. Mais il y en a qui vont jusqu'à peut-être 2,7 trillions de dollars par année. Alors, ça varie. On va y aller pour un chiffre plus conservateur. 1,4 trillion de dollars par année. Eh bien, c'est simple. Hein? Un mandat de 4 ans d'un policier quelconque, ça fait environ 5-6 trillions de dollars. Où va cet argent? La question, même les gens qui veulent combattre le crime, qui sont pour la prohibition, optent pour le moyen efficace. C'est un peu triste. Hein? Même les gens qui veulent que leurs enfants ne consomment pas de drogue offrent le moyen le plus inefficace, celui de la prohibition. Ça génère du fric, ça criminalise l'économie, ça augmente la violence. Ça fait mal au gouvernement, au trésor public. On peut citer l'exemple de l'Afghanistan qui a 60% de son économie qui est criminalisée, donc il n'y a aucun argent qui rentre. Il ne peut pas faire des autoroutes, des écoles, etc. Alors, il est obligé de prier l'aide internationale. C'est une bonne façon de garder un pays à terre. C'est de maintenir, justement, la prohibition des drogues. L'Afghanistan ne sera jamais capable de se relever debout. Mais aussi, ça fait très mal au trésor public. Au Québec, on perd quoi? 3, 4, 8 milliards de dollars par année face à l'évasion fiscale, probablement 8-10 milliards. Bon, il y en a qui disent que c'est 15% de l'économie. Il y en a qui disent que ça va jusqu'à 25% de l'économie mondiale, l'évasion fiscale. Et la drogue, c'est une partie prenante. Alors, tout cet argent qui a été blanchi, mis sous des matelas pendant des dizaines d'années à des coûts de milliards de dollars dans une économie est-elle virtuelle, légale, réelle? On peut se poser la question. Ben, le fouillis total... Aujourd'hui, il y a combien d'argent qui est de provenance sale qui a contribué au désastre financier actuel? Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que l'argent, la drogue, la haute criminalité, depuis 1990 à 2008, elle a décuplé ses revenus. Elle fait 10 fois plus d'argent aujourd'hui qu'il y a en 1990 quand il y a eu une déréglementation sauvage qui s'est faite au lendemain de la guerre froide. On a déréglementé les marchés financiers, notre façon de s'assurer de retracer de l'argent d'où elle venait. Mm-hmm. L'Europe de l'Est, ça a été un vol de la mafia internationale en Europe de l'Est. On a regardé le petit préambule russe qui est arrivé dans les années 80-90. Ça a facilité la criminalité internationale. Et aujourd'hui, on est aux prises avec un monstre qu'on a beaucoup de difficultés à se défaire parce qu'il est rendu tellement gros qu'il s'infile dans l'économie légale, pour ne pas dire le Fonds de la solidarité de l'FTQ, et pour ne pas dire aussi les syndicats, les soumissions des travaux publics. C'est classique ce qu'on voit en ce moment. Ce qu'on voit aujourd'hui, là, qu'on fait des références, peut-être des fausses compagnies, c'est classique. Ça fait un siècle que ça existe. Mais aujourd'hui, la bête est tellement grosse. C'est difficile de la camoufler. Avant, on le faisait. Mais aujourd'hui, à 1,4 trillion de dollars annuellement qu'on doit blanchir. Alors, c'est clair que les compagnies offshore, les îles Caïmans, Turcs, Caïcos, Bahamas, Barbade, name it, c'est merveilleux pour blanchir de l'argent. Et d'autant plus qu'en ce moment, l'État québécois, canadien et global, grâce à l'Internet aussi, l'industrie du jeu qui s'est mondialisée depuis les années 90, et où le gouvernement québécois est participant lui-même, il n'a pas fait, regardez ce qu'il a fait. Quand il a pris la place du crime organisé dans le jeu, au lieu de mettre en place une politique de rarification du jeu, a plutôt fait une politique d'accessibilité au jeu. Alors l'État qui ne veut pas, qui fait la prohibition des drogues, pourrait très bien prendre la place du crime organisé, vouloir le légaliser, les drogues, et plutôt que de faire ce qu'ils ont fait avec le jeu, ou l'alcool avec la SAQ qui donne des rabais dans le temps des fêtes. Mais au lieu d'offrir une politique d'accessibilité, pourquoi pas mettre en place pour les drogues une politique de rarification comme on a fait avec le tabac?
Au moins, on ne se raconterait pas des histoires.
Ben, au moins, le chiffre, la consommation, on aurait des outils pour permettre justement une consommation qu'on jugerait peut-être décente, où on arrivait à un contrôle, non pas d'une... arriver à contrôler la consommation, éviter la surconsommation ou la polyconsommation. Les gens qui étudient en toxicomanie vont comprendre ce que je veux dire. Mais c'est clair qu'en ce moment, tous les dispositifs visent à créer, dans le fond, un idéal qui n'existe pas. C'est une utopie de s'imaginer que les drogues vont disparaître aujourd'hui. Il y a quatre raisons qui empêchent la prohibition. Ça, c'est très personnel, mais moi, j'appelle ça les quatre C. Premièrement, c'est conservatisme, qui est partie intégrante de la philosophie depuis 1909 du lobby puritain, et qui maintenant, aujourd'hui, est considéré pratiquement comme la norme. Il suffit de regarder Michael Ignatieff au Parti libéral. D'ailleurs, on peut se poser qu'est-ce qu'il y a de libéral dans le Parti libéral, parce que eux, ils ont appuyé le projet de loi C-15, qui garantit 6 mois de prison pour la culture d'un seul plant de marijuana. Alors, imaginez, ça a été passé il y a 2 semaines, soit en passant. Ça, c'est le Parti libéral. Alors, le C pour conservatisme, j'inclus le Parti libéral là-dedans.
Le PLC.
Ben, le Parti libéral du Canada ou le Parti libéral du Québec, il n'y a pas tellement de différence idéologique entre les deux.
Le Parti libéral conservateur, peut-être dans ce cas-là.
Ben, je pense que le concept de l'alliance libérale conservatrice va très bien dans le sujet sur lequel on parle, parce que les deux ont la même philosophie principalement. C'est assez curieux, mais il y en a un qui ose s'appeler libéral. Alors, il y a le conservatisme, il y a le corporatisme, qu'il ne faut pas oublier aussi. Là, je mets je parle surtout de la police, des juges et des avocats qui ont tout intérêt à demeurer un système inefficace parce qu'ils font grassement la pièce avec ce système. Alors, j'imagine qu'ils se frottent les mains depuis toutes les descentes qu'il y a eu depuis le début. Ils vont aller en prison 5-6 ans, ils vont ressortir, puis the same old thing va continuer. Alors, le corporatisme, je dirais même politicien, je veux dire, il ne faut pas se le cacher. Alors, le corporatisme judiciaire, policier, qui ne veut pas vraiment que les choses changent. Pourtant, ils auraient intérêt à faire changer des choses, je crois. Parce qu'ils seraient d'ailleurs plus proches de vraiment lutter contre la criminalité plutôt de lutter contre le consommateur. Mmh. Et on peut se poser la question, est-ce que criminaliser la consommation, c'est de la lutte véritable contre le crime organisé? Je pense que c'est une lubie, ça ne fonctionne pas. À vrai dire, c'est tellement intégré dans la politique de nos politiciens. Je vous rappelle M. le ministre Bolduc, ministre de la Santé, qui est un docteur. Okay? Il ne faut pas oublier, ce n'est pas un prêtre là, dont on parle, ce n'est pas un moralisateur, c'est un docteur. Lui, pour lui, la toxicomanie, le remède, c'est la prison. Parce que lui, il était contre la politique hein, des sites de cliniques d'injection assistée. Alors lui, pour lui, le diagnostic, la toxicomanie, le remède, qu'est-ce qu'il proposait? C'est la prison. Bon, il a reculé là, parce qu'on lui a fait comprendre qu'il y a beaucoup de lobbies à l'intérieur au Québec qui veulent justement arrêter de poursuivre cette politique qui ne mène pratiquement nulle part. Troisième C, conservatisme, corporatisme, corruption. Je crois sincèrement qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, d'hommes publics et d'entreprises publiques et d'administrateurs publics qui sont sûrs, qui ont les mains ou qui sont dans de l'argent sale ou du moins de l'argent sale qui est devenu propre dans certaines compagnies qu'aujourd'hui, probablement beaucoup d'hommes d'affaires ignorent l'origine parfois de leur capital. Mmh. Alors, quatrième C. Et probablement le quatrième C, moi, j'appelais ça des conservatifs, corruption. Ah, j'appelais ça aussi, dans le fond, le conservatisme, ou j'appelais ça aussi, on va y aller pour 3C. Okay. Fait que la prohibition, pour moi, va demeurer encore. Parce que aujourd'hui, autant nos politiciens que nos forces de l'ordre ne désirent pas vraiment modifier l'ordre des choses.
Mais pensez-vous aussi qu'une approche, admettons, de santé publique pourrait aussi bien fonctionner en drogue qu'il pourrait fonctionner en matière d'obésité? Parce que si on en regarde si on prend une autre attitude vis-à-vis, on va arrêter de réprimer la consommation, la production, etc., ben les autres modèles qu'on a présentement, c'est quelque chose qui ressemble à ceux qu'on a vus justement pour l'obésité.
Vous savez, c'est un peu triste de s'imaginer que la politique de réduction du méfait, c'est fait par la politique du pire. C'est-à-dire que ça a pris une crise du sida avant que nos politiciens acceptent de donner des seringues ou des condoms distribués. Vous savez, ça a pris la politique du pire. Ça a pris une crise pour que les politiciens agissent. Et je crois sincèrement que ça va prendre encore la politique du pire pour changer quoi que ce soit au point de vue de la prohibition des drogues. C'est-à-dire
c'est ça, la politique.
Ouais, là, on est rendu à 1,4 trillion. Là, je veux dire, on arrête un paquet de monde, on va se rendre compte qu'il y a plus assez de place en prison, on va construire d'autres prisons, on va peut-être arrêter encore plus de monde. Vous savez, il y a eu 40 millions d'arrestations en Amérique du Nord depuis 1971. Alors, peut-être qu'on va atteindre 100 millions d'arrestations, on va se rendre compte que ça ne sert à rien. Ou peut-être quand le crime organisé va faire 3 trillions de dollars par année, on va commencer à réfléchir que peut-être on s'y prend mal.
C'est peut-être eux qui vont régler la fin dans le monde, hein, le crime organisé.
Pardon? Ben écoutez, si aujourd'hui, là, je veux dire, si on arrivait à imposer seulement à 20% ce qui se fait en termes d'évasion fiscale et criminalité, on le réglerait assez vite le problème de la faim dans le monde. Mais c'est pas le cas. Alors, puis c'est tout aussi un manque de volonté extraordinaire. Quand j'entends M. Sarkozy parler de réformer le capitalisme, bon, là, je pense qu'il devrait commencer au moins à le nettoyer avant de commencer à le reformuler, parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas démontré une capacité à le nettoyer. Alors, c'est un peu triste, mais je suis peut-être un peu pessimiste, mais j'essaie aussi d'être réaliste, parce que je dois vous avouer qu'il y a une force conservatrice extraordinaire au Québec, au Canada et dans le monde, qui est capable, justement, de corporatisme, hein? Je ne vais pas ne pas le dire, qui fait en sorte que le changer la réalité, tiens, yes, we can, je ne suis pas sûr.
Parce qu'en même temps, vous parlez de réalisme. Je veux dire, en même temps, comme on disait tout à l'heure, si ça génère énormément d'argent sale, mmh. veut pas, on fait des choses sales avec.
Oui.
C'est-à-dire, on peut financer des mercenaires ou renverser des gouvernements qu'on a vu au Nicaragua.
C'est ça.
Partout à travers le monde, dans le fond, c'est que...
C'est un outil intéressant quand même, la drogue, là, pour un gouvernement qui veut faire justement des plans comme ça.
Parce qu'en même temps, si on regarde, on a vu une augmentation du blanchiment d'argent, mais ça vient aussi avec la mondialisation des flux économiques. C'est-à-dire, ça permet aussi aux entreprises, comme on disait par avant, qui sont des entreprises légitimes, qui produisent des biens, des services, etc., qui vont blanchir leur argent, qui ne vont pas payer de taxes.
Ben,
mais en même temps, ces endroits-là sont utilisés pour des fins de criminalité, en quelque sorte. Le monde interlope, on a autant besoin que le monde blanc, si on peut le dire.
Oui, oui, bien, il y a des croisements qui se font, là. Mais je veux dire, une compagnie qui se respecte ne va pas blanchir son argent de façon... je veux dire, pas faire de l'évasion fiscale, j'en conviens. Le blanchir, c'est peut-être une autre question.
Non, mais je veux dire, les mêmes paradis fiscaux sont la même utilité, mais pas nécessairement les mêmes fins.
Il ne faut pas se le cacher. Je veux dire, la dernière arrestation spectaculaire au Casino de Montréal, là, c'était un homme d'affaires très respecté de la rue Chabanel qui a eu 50 millions de dollars du gouvernement fédéral. Là, puis je veux dire, qui a été pris les mains dans le sac, a fait du blanchiment d'argent au Casino de Montréal. Alors, ça, c'est en 2004-2005. Alors, vous savez, parce que la loi fait que tu n'as seulement qu'à blanchir moins de 10 000 $ par jour, puis tu es correct. Là. On n'aura pas de questions posées. Écoutez, il y a un livre qui vient de sortir au Canada qui estime, ils ne savent pas là, vraiment il y a combien d'argent que les casinos blanchissent. Là. Les seuls chiffres là, approximatifs qui arrivent, c'est entre 15 et 20 % de l'argent qui rentre dans les casinos, c'est de l'argent sale. Puis ça, je vous donne, c'est les références des agences de sécurité dans des casinos privés dans les prairies canadiennes, qu'est-ce que je vous dis là. Ça, c'est leur estimation. C'est le seul chiffre que je peux vraiment vous donner parce que c'est le seul chiffre, c'est la seule fois où quelqu'un ose dire un chiffre, c'est quoi le pourcentage d'argent qui est blanchi dans le secteur du jeu qui est contrôlé par le gouvernement du Québec, je vous rappelle ici.
Mais sinon, ce serait peut-être plus intéressant de ramener la question plus locale. On a parlé de plusieurs projets libéraux pour ce qui est d'une approche différente avec le cannabis. Mais je pense qu'il y a différentes avenues qui sont étudiées qui ne sont pas nécessairement des solutions, comme entre autres la décriminalisation.
Oui. Bien, le Parti libéral, ça fait 40 ans qu'il en parle, là, je veux dire, avec la commission Lodin qui a commencé en 1969. Alors, si les gens croient que le Parti libéral va décriminaliser, bien, c'est le fun de rêver. Non? Mais moi, je ne crois pas qu'il va le faire. Puis, il a fait beaucoup de mesures dilatoires, je vous rappellerai, pour empêcher justement la légalisation du cannabis thérapeutique. Je vous rappelle, pas de la question récréative, mais rien que ça a pris 3 ans de mesures dilatoires du Parti libéral, des mesures qui, dans le fond, étaient intentionnelles pour ralentir le processus de la légalisation du cannabis thérapeutique pour la simple et bonne raison que le bureau d'accès au cannabis médical n'était pas encore prêt. Alors, il faisait des mesures dilatoires en attendant que le bureau soit prêt pour ensuite légaliser le cannabis thérapeutique et avoir le monopole dessus. Comme ça, il s'assurait que les clubs compassion du Canada ne soient pas des distributeurs, dans le fond, légalisés. Il aime mieux garder un flou juridique entourant les clubs compassion plutôt que alors les autoriser ou de faire des arrêts de procédure contre ces clubs pour éviter qu'il y ait une jurisprudence pour en faire en sorte que la distribution du cannabis par les clubs de corporation soit légalisée. Il vaut mieux travailler dans un flou juridique. Mm-hmm. Ça
leur
donne
permet facilement de les fermer au cas où.
Oui, il peut toujours les fermer un jour si ça a le temps. Ils ont déjà tenté, mais ça n'a pas fonctionné. Et justement, ils sont très satisfaits du fait qu'en ce moment, il y a eu des arrêts de procédure. Il n'y a pas eu de jugement, parce que ça aurait fait une jurisprudence. Alors, on est mieux avec des arrêts de procédure dilatoires pour que le gouvernement canadien a toute la latitude qu'il veut sur l'approche qu'il veut faire. Alors, il y a 2 semaines, le Parti libéral a voté pour le projet de loi C-15. Alors, le Parti libéral, il faut bien comprendre que depuis 1982, depuis l'intégration de la Charte des droits et libertés, n'est plus activiste, n'est plus libéral, c'est un parti de pouvoir, puis il laisse le monde se démerder dans les cours de justice, puis d'aller jusqu'à la Cour suprême, de faire des victoires, et là, les juges disent au Parti libéral quoi faire. Ça a été comme ça pour le mariage de même sexe, ça a été même chose pour le pot thérapeutique, où ça a pris des batailles juridiques. Et c'est un individu qui souffrait énormément, qui a gagné en cours en 1997, Terry Parker. Et là, depuis ce temps-là, il avait le droit de fumer du pot thérapeutique. C'est le problème, il n'avait pas le droit de s'en procurer. Alors, l'incohérence des lois ont fait en sorte que, comme je l'ai dit, il y a eu des mesures dilatoires, parce que c'était très incohérent, on peut très bien le comprendre. Ce qui fait en sorte que, bien sûr, ça a pris un certain temps avant le gouvernement de mettre en place une loi cohérente pour le pot thérapeutique. Mais une loi cohérente pour les drogues récréatives, ça, c'est pas demain la veille.
Oui. Bien, M. Granger, je pense que ce serait intéressant de parler d'utopie. On a vu certaines qui n'ont pas fonctionné. D'après vous, pour quelqu'un qui a fait pas mal le tour du sujet, vous avez vu différents modèles, j'imagine, à travers le monde se produire. Puis je pense que j'imagine qu'il y en a un certain que vous admirez plus que d'autres.
Moi, je crois que le modèle le plus efficace, si on veut faire une action demain matin, qui ne changera pas grand-chose au lobby, justement, corporatiste, les policiers, les juges, les avocats. Aux politiciens, on peut les excuser qu'ils n'ont pas grand-chose à dire là-dessus, parce que, dans le fond, ils sont un peu ignorants dans le sujet, ils ne savent pas vraiment qu'à l'aborder. Je crois que l'autorisation de la culture personnelle, demain matin, réglerait une partie du problème, une petite partie.
Moi, je serais heureux.
Ce qui... Il faut bien comprendre, ça a déjà été tenté dans d'autres places, en l'occurrence dans plusieurs États américains, où à l'élection d'Obama, le Massachusetts a voté à 65% pour la décriminalisation pour environ 30 grammes de cannabis et moins. Et d'autres États permettent la culture d'un nombre restreint de plants de cannabis, parce que si, disons, vous permettez à quelqu'un d'en faire pousser 5, c'est un gros consommateur de cannabis, ça je veux dire, hein? Ça veut dire à l'année longue, ou bien un malade quelconque qui a besoin pour des fins thérapeutiques d'en fumer beaucoup, parce que ça arrive, ça, c'est amplement suffisant. Et on n'a pas assez pour faire un réseau criminel. Alors, si la quête, l'idée derrière la loi de la prohibition, c'est de s'attaquer aux criminels, s'attaquer aux consommateurs n'est pas une réussite, ce n'est pas un objectif qui est cohérent, et c'est un objectif qui ne sera jamais atteint. Parce qu'il ne fait pas la division entre ce qui est criminel, les vrais criminels et des consommateurs de drogue. Que ce soit de l'héroïne, de la cocaïne, de l'ecstasy, du cannabis, etc., les consommateurs sont des acheteurs et la loi les criminalise, mais ils ne sont pas des criminels, ces gens-là, proprement dit. Alors, dans le fond, on accentue l'emprise du crime organisé sur des gens qui ne sont pas à prime abord criminels. Alors, rien que si on a à faire une chose demain matin. Vous savez, les forêts québécoises sont grandes. On ne pourra pas empêcher la culture du cannabis. Et là, c'est vrai qu'il y a 5 000, 10 000 ou 15 000 ou 50 000 maisons qui servent à des mériculteurs parce que ça fait un parc immobilier de 112 milliards seulement au Québec, ça.
C'est des moyens.
Ça, on ne le comptabilise pas dans les chiffres, bien sûr. C'est clair que si vous faites ça demain matin, vous allez régler un petit problème, c'est-à-dire faciliter au moins l'accès du consommateur qui produit ses plants puis qui, justement, n'est pas dépendant du crime organisé. Demain matin, je fais ça tout de suite. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que les corporatistes, les policiers qui courent après les criminels, ils resteraient là demain matin. Ils seraient peut-être contents, je veux dire. Ils ne s'emmerderaient pas avec les potus de la rue Wellington, je veux dire. Bon, on peut mettre une éthique publique. On ne fume pas sa voie publique. C'est ça qu'ils font en Hollande. Vous fumez dans les bars. Dans les bars qui sont privés pour ça. Faites pas de bruit dehors. Faites-le en dedans. Faites-le pas dehors. L'espace public doit demeurer sobre. Tout le monde est d'accord, je pense, là-dessus. Mm-hmm. On n'aime pas ça voir des gars sous qui se promènent dans la rue. Alors, on pourrait garder un espace public sobre et ça devrait être ça l'objectif et de courir avec des vrais criminels. Ceux qui en font pousser à tonnes de la drogue puis qui vendent ça à n'importe qui. Puis, il n'y a aucun contrôle sur sa qualité, puis sur l'âge des consommateurs. En ce moment, il n'y a aucune mesure concrète qui peut empêcher la criminalité de déverser les drogues sur le marché. Aucune mesure, sauf courir après. Alors, l'État se refuse en ce moment de contrôler les drogues pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle ne croit pas qu'elle est capable de le faire. Et c'est là que je vois que les policiers sont très, dans le fond, des vendeurs d'hypocrisie quand même. Ils vont annoncer qu'ils vont faire des prisons pour les remplir, sûrement. Et on sait très bien que d'autres criminels vont prendre la place d'autres. Alors, la logique typique qu'un criminel en prison, c'est un criminel le moins dans la rue, mathématiquement, c'est vrai, mais ça ne touche absolument pas à la criminalité. Parce que les régimes les plus durs envers la prohibition et la criminalisation ont le taux de criminalité le plus élevé.
On parle de
regarder aux États-Unis. Alors, si c'est la voie que le Parti libéral veut suivre, et le Parti, puis ça, je vais être méchant, là, mais pourquoi pas? Tous les partis au gouvernement québécois ont suivi cette route. Là, il y a une petite, le PQ se semble se poser des questions, mais il n'est pas allé au bout de sa réflexion parce qu'il y a une petite gêne. Il veut faire l'indépendance, donc il veut être compatible avec la politique continentale. Hein? Donc, il n'ose pas dire vraiment ce qu'il pense. C'est un peu triste d'avoir un parti qui prône la liberté, mais qui s'impose une censure. Mais c'est clair que vous avez là, il pourrait le faire d'ailleurs, le PQ, pourrait le demander, parce que vous savez qu'on a 70 000 arrestations par année au Canada. Il ne faut pas oublier que c'est des fois la police municipale et québécoise qui t'arrête, c'est pas nécessairement la GRC. Alors, il pourrait très bien avoir des missives, mais nos gouvernements ne le feront pas. Il faut être réaliste. Nos gouvernements ont les bras croisés devant ce problème. Et tout ce qu'ils font, c'est courir après la souris. C'est aussi simple que ça.
Qu'est-ce que vous feriez, justement, des drogues plus dures? Parce qu'en même temps, quelqu'un qui veut faire de l'héroïne, de la cocaïne, je veux dire, il peut pas pousser ça chez lui. En même temps, ça implique nécessairement une narcotrafic.
Bon, mais... Oui, il pourrait faire pousser ses plans de coke et ses plans de pavot en arrière chez lui, mais il faudrait qu'il soit un bon chimiste aussi. Mais probablement, s'il devient un bon chimiste, probablement, il y aurait une dépendance moins grande aux drogues. Ça serait une personne plus...
Il prendrait pas de compte.
Mais écoutez, il faut être logique là, dans tout ça. Là, c'est que le réseau, pour avoir des drogues dures, il faut se fier à la criminalité. Il ne faut pas se le cacher. Puis c'est pas la zone aussi où on en produit beaucoup. Alors moi, je vous dirais tout simplement, moi, je légaliserais aussi la vente d'héroïne, de cocaïne et de toutes les drogues. Okay. Sincèrement. C'est la façon qu'on met en place, après ça, la politique de raréfication et de contrôle, que là, il faudrait s'asseoir et discuter. Parce que si on veut contrôler quelque chose, si on veut que la consommation diminue, si on veut s'attaquer au crime organisé, il faut avoir le plein contrôle sur le marché des drogues. En ce moment, on fait tout pour ne pas l'avoir.
Est-ce qu'il y a un pays au monde qui a déjà essayé cette voie-là?
Jusqu'à maintenant, non.
Non.
Et peut-être la Hollande et certains pays comme le Portugal, il ne faut pas oublier, des pays européens aussi ont commencé à décriminaliser ce qu'on appelle les drogues douces, c'est-à-dire le cannabis, mais il y a d'autres pays aussi qui ne vont pas criminaliser des toxicomanes, comme la Hollande, comme la Suisse. Alors, on gagnerait peut-être d'avoir une approche qui vise davantage de contrôle plutôt que la répression.
Mais c'est malheureusement tout pour l'émission d'aujourd'hui. C'est avec ce très intéressant entretien qu'on a eu avec Serge Granger et Carlos. Et puis, c'était l'émission La Rage du Peuple qui se termine en ce moment-ci. Et puis, on peut se dire à la semaine prochaine.
L'alligator en plastique d'Émile, c'est deux pompiers avec leur camion. ses quatre ninjas verts, sa petite girafe à trois pattes et son chien Maxou vous demande de penser à lui cet été en composant le 511 ou en visitant le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements et circuler en toute sécurité près du chantier routier où il passe chaque jour avec son père. Merci. Un message du gouvernement du Québec.
Passez les fins de soirée du mercredi.